C'est une règle générique, il y a toujours des stars qui attirent toute la lumière et dans leur ombre, des besogneux. Il y a les artistes et il y a les artisans. En football, il y a Neymar et il y a Matuidi. Dans le passé, il y a eu Zidane, il y a eu Makelele. On admire les premiers pour leur génie et on a tendance à leur passer tous leurs caprices. Des seconds, on attend toujours qu'ils soient excellents et qu'ils acceptent de rester dans l'ombre. Bien sûr, la star est plus exposée. Dès qu'elle commence à montrer des signes de faiblesse, on lui cherche des successeurs. Le joueur besogneux, lui, tombera de moins haut quand il devra progressivement accepter de quitter la scène. Mais le plus important, est-ce qu'on aime moins les artisans que les artistes ? Ben, j'en suis pas si sûr. Rassurez-vous, j'arrête là cette métaphore footballistique qui, j'en conviens, a ses limites. Mais figurez-vous que le même phénomène existe dans les vins. Certaines appellations sont sur le toit du monde et nous avons la chance en France d'en avoir un grand nombre. Au sein de ces appellations, des domaines magnifient les éléments à leur disposition pour maintenir le standard au top niveau. D'autres sont un peu moins inspirés et font parfois des vins presque ordinaires, mais le prestige de leur marque leur assure une forme de rente sur le marché mondial. À côté des stars, on trouve des vignerons qui travaillent dans de petites appellations, rivalisent d'ingéniosité, de créativité. Et c'est beaucoup, tâtonnent parfois pour proposer, pour créer des vins inattendus. S'ils y parviennent, il reste encore à franchir les barrières du marché, faire en sorte que leur vin soit goûté par les critiques et proposé au plus grand nombre. Ce travail de l'ombre, c'est ce qui permet à tous les amateurs de vin de s'enorgueillir d'avoir déniché une pépite. Oh, tu vas voir, c'est un tout petit domaine, mais complètement inconnu. Mais franchement, il n'a rien à envier à machin ou à truc ou à chose. Et pour le prix, vraiment, c'est vraiment une affaire. Alors oui, ici, dans la Terre à Boire, on assume. Nous aimons les artisans tout autant que les artistes, tout comme le Parc des Princes aime Blaise Matuidi pour l'éternité, et tous les Neymar de la Terre n'y changeront rien. Ce quatrième épisode s'intitule « Les merveilles cachées de la rive droite ». Bienvenue dans la Terre à Boire. C'est donc la dernière étape de notre voyage dans la vallée du Rhône. Nous avons parlé de Kéran lors du premier épisode. Nous avons goûté un excellent Châteauneuf du Pape dans le deuxième épisode et mis en avant l'appellation vin sobre. C'était le troisième épisode et le travail de la maison Valo. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que ces trois vins sont issus du même côté du fleuve et tous plus ou moins de la même sous-région, on va dire, autour de l'épicentre qu'est Châteauneuf du Pape. Or, les côtes du Rhône s'étendent aussi sur la rive droite du Rhône en Ardèche et dans le Gard. Les appellations sont moins connues, les plus célèbres, peut-être le Costières de Nîmes, mais il y a aussi Saint-Gervais, l'Audun, Tavel, Lirac. Et c'est justement d'un Lirac dont nous allons parler ce soir. Et on va vous le présenter, tout simplement, un Lirac qui s'appelle Domaine des Maravillas, la Pierre de Josette. Et c'est une cuvée 2014 que nous allons découvrir. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Chers amis, j'ai oublié de vous présenter, n'importe quoi, on oublie tous les fondamentaux. Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Et Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
Lirac, on s'en dit, sans parler juste un petit peu en antenne juste avant. Lirac, en fait, c'est tout comme Châteauneuf. On a même les fameux galets roulés. C'est juste que c'est de l'autre côté. C'est beaucoup moins connu. Donc potentiellement, on pourrait y faire de très grands vins, Laurent.
On y fait de très grands vins.
On y fait comme celui-là, là, comme le Maravillas. Non, honnêtement, c'est quand même très compliqué de trouver des vins célèbres, réputés, de ce côté-là, finalement.
C'est pas faux.
Les stars sont de l'autre côté, il faut le dire. Je vais le dire, je vais faire mon coming out. Je suis du Gard, je suis du côté où on fait du Côte-du-Rhône, tout le monde fait du vin, mais les stars, elles sont de l'autre côté. Elles sont en Vaucluse, c'est Châteauneuf. Donc les riches, les bourgeois du vin... L'aristocratie du vin, elle est tout du même côté. Ils se la ramènent avec leurs galets roulés, leur argilo calcaire. On fait du vin aussi. Mais pourquoi il est moins bon ?
Non, mais Romain, il y a des stars sur cette rive-là.
Ah, mais je l'ai dit, il y a Blaise Matuidi aussi. Hein.
Je pense que tu essaies de récupérer une bouteille de Tavel de chez Pfifferling là demain.
D'accord. Bien, donc ça, voilà une star côté rive droite, c'est
une
Tavel.
Une star sur Tavel.
Rosé ou rouge ?
Rosé.
Rosé.
Tavel est une
le Tavel, c'est vraiment une appellation rosée.
Uniquement rosée. Et moi, j'ai passé l'été à essayer de le voir, de le rencontrer, de le toucher, de lui parler. impossible. De toute façon, ces vins sont vendus pour les 10 prochaines années. Et c'est du Tavel et il est sur la rive droite. Donc non, je pense qu'il y a effectivement le prestige des appellations. Bon, Châteauneuf-du-Pape, ça fait 70 ans qu'ils sont en appellation. On peut pas comparer.
C'est un travail qui est plus récent.
L'Irak et Châteauneuf, et surtout après, c'est une volonté de certains vignerons de tirer leur appellation vers le haut. Il y a des appellations sur lesquelles personne ne s'est penché, ne s'est dit tiens, moi je vais essayer de faire quelque chose de bien, et puis ça va tirer l'appellation vers le haut. On parlait de Marcel Richaud dans une émission précédente. Bon, mais il fait partie de ces gens qui ont aidé Kéran à devenir un cru. Et il suffit des fois d'une poignée de vignerons qui décident de travailler différemment, de ne pas faire comme les autres, qui amenaient tout à la coopérative, etc., pour faire des choses bien, et après, de faire grimper, mais ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine. Bon, les Côtes du Rhône méridionales, par définition, c'était quand même des vins de soif, enfin des vins, on faisait pisser la vigne pendant des années, pour juste avoir du vin à boire, quoi. Aujourd'hui, on est dans une logique de marché qui est beaucoup plus élitiste, et il suffit qu'il y ait quelques vignerons qui se penchent là-dessus. Moi, je suis convaincu que Jean-Frédéric Bistagne, au domaine des Maravillas, il est dans cette logique-là. Il a des parcelles sur Châteauneuf, il a des parcelles sur l'Irak, il essaie de faire quelque chose, il a des parcelles sur l'Audin aussi, il essaie de faire des choses de qualité qui vont passer les espèces de préjugés sur l'Irak, Châteauneuf, c'est bien, c'est pas bien. Non. Vraiment, je pense qu'il y a moyen, dans quelques années, de se dire « Oh purée, il y a des stars du l'Irak ».
Mais il n'y a pas de raison. On a le même climat, on a le vent, dont on a déjà parlé. On a l'ensoleillement, c'est le même. Globalement, la géologie, c'est la même, puisqu'on est toujours dans la vallée du Rhône. On a ce sol argilo-calcaire dont nous a parlé Dominique Buffet. Les cépages qui sont travaillés, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, et un certain Cinsault, un certain nombre d'autres, essentiellement du vin rouge. On fait aussi du vin blanc, mais c'est surtout du vin rouge. Tavel, on fait vraiment du vin rosé, donc c'est la spécificité de cette appellation-là. Donc en fait, tout est là. Moi, par rapport à ce que tu disais sur les caves coopératives, mon expérience, parce que je connais un peu ce coin-là, c'est effectivement qu'il y a 20 ans, il n'y avait que des caves coopératives. Dans pas mal de bleds que je connais, les vignerons, ou plutôt les viticulteurs, n'étaient pas des vignerons, justement. Ils cultivaient la vigne, ils apportaient leur vin, leur vendange, à la cave coopérative. Ensuite, encore faut-il qu'il y ait là quelqu'un qui sache faire du vin, qui fasse un bon vin, et surtout, c'est un vin qui est forcément un patchwork de tellement de choses différentes que c'est difficile d'en tirer quelque chose d'essentiel et de vraiment bon. Finalement, c'est un phénomène qu'on voit plus récemment, de viticulteurs qui ont atteint une taille critique qui leur permet de vinifier leur vin proprement, en propre, je veux dire, eux-mêmes. Et là, du coup, ils embauchent des vinificateurs et ils commencent à faire des créations. Donc, c'est ce qui se passe avec ce Maravillas, finalement.
Tout à fait.
On est dans une exploitation privée qui décide de faire son vin, qui lui donne une ligne directrice et on exploite un environnement pour essayer d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce l'Irak, appellation l'Irak, domaine des Maravillas, la pierre de Josette, et qu'on a servi dans un millésime 2014.
On est sur un parti pris déjà où on est en 100% Syrah. Mm-hmm. C'est un parti pris.
C'est un parti pris, exactement.
Le domaine veut dans l'idée, essayer de prouver qu'en Rhône-Sud, on est aussi capable de faire des belles Syrah, comme dans le Rhône-Nord, type Côte-Rôti, Saint-Joseph.
Côte-Rôti, Saint-Joseph, qui sont des purs Syrah. On l'a déjà dit, hein, mais on est plus en monocépage en Côte-du-Rhône septentrionale, et notamment sur la Syrah. Donc on serait sur du 100% Syrah.
Donc on est sur un pur Syrah, effectivement. Donc c'est un parti pris un peu risqué, mais un peu innovant, donc c'est intéressant.
C'est ça l'idée, hein, de ces petits domaines. Comment se démarquer? En innovant, en créant, en cherchant, en essayant, en proposant des choses nouvelles. Alors c'est un vin qui est encore un petit peu... On l'a ouvert il y a déjà un petit moment, avant de commencer à...
Rose de Mire.
Ouais, même un peu plus, avant d'ouvrir les micros. Il a l'air encore un petit peu fermé. Au nez, on sent quand même déjà bien, justement, la présence de la Syrah, qui est quand même un cépage à part, hein, qui a cette couleur grenat là, très, très prononcée, très claire, avec des nuances. Mais on est vraiment dans une belle couleur.
Allez, prenons des risques, on va dire qu'elle est plutôt...
Prenons des risques, dit-il, en observant une rosace des couleurs.
Exactement.
Dans la revue du vin de France, excellent canard par ailleurs.
Ouais. Allez, violet.
On est dans le violet.
Je dis violet.
Il y a quelque chose, hein, dans ce parfum, on est sur un
à l'ouverture,
un vin très différent.
objectivement, à l'ouverture, on était un petit peu en réduction avec un petit côté, œuf pourri. Mais là, ça commence à se dissiper.
Le mot est dit. Ouais, mais il ne faut pas s'affoler.
C'est violent, mais effectivement...
Ça commence à se dissiper, là.
On a un peu de réduction, mais ça, c'est...
Qu'est-ce que tu entends par réduction ?
En fait, quand le vin est mis en bouteille, peut être privé, enfin, il est privé d'oxygène, et il se fâche. Non, il ne se fâche pas, mais...
si le vin est vivant, on l'a déjà dit. Hein.
En fait, la relation vin-oxygène est une relation, une liaison dangereuse.
C'est essentiel.
Trop d'oxygène tue le vin, pas assez d'oxygène...
L'étouffe.
Et là, effectivement... en ouvrant une bouteille et qu'on sent qu'on a cette impression un peu, comme le disait si élégamment Patrice, d'œuf pourri. ou de chou.
C'est ça. De chou.
C'est à la fois consternant parce qu'on n'aime pas ça, mais en même temps, c'est pas inquiétant parce qu'on sait.
Il faut juste patienter.
Il faut patienter. Il ne faut pas hésiter à le carafer dans ces cas-là. Et après, on va réussir à développer tous les arômes qu'on attend d'un vin. Parce que bon, moi, la pierre de Josette, je la connais. Je la connais, je sais qu'elle peut être vraiment...
On peut le dire, c'est toi qui nous a ramené cette idée.
Là, qu'il ne faut pas aller dans des... La pierre de Josette, je la connais.
Attention de ne pas déborder.
Je
ne
suis pas très bon pour l'accent du Sud, mais en l'occurrence, effectivement...
C'est Patrice qui se charge des accents dans cette émission, t'inquiète
toujours,
pas.
Toujours. Cet été, dans mes missions de...
On fera les vins corses un jour, tu vas voir.
D'exploration, je suis passé au domaine des Maravillas et j'étais vraiment séduit.
À Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard.
Oui, avec Jean-Frédéric Bistagne qui m'a reçu royalement pour me faire découvrir son domaine. Et j'ai goûté pas mal de ses cuvées. Et celle-ci me plaît tout particulièrement, mais il en a pas mal d'autres.
Il travaille c'est un domaine qui produit du Lirac, celui qu'on est en train de goûter,
ouais.
Du Lodin, qui est aussi de la rive droite. Il a une parcelle en Châteauneuf-du-Pape, donc ouais. Il produit aussi des Châteauneuf-du-Pape.
Il produit du Châteauneuf, bon,
et
c'est confidentiel, oui.
Et le reste, ça va être du Côte-du-Rhône.
Il a du Côte-du-Rhône.
Côte-du-Rhône standard, ouais, sans appellation, enfin sans cru, juste Côte-du-Rhône.
Oui.
Et pour la petite histoire, c'est un vin qui est aujourd'hui élevé en biodynamie, exactement comme le Valo qu'on a goûté. Oui. Non, comme le vin sobre.
Oui, ben le Valo.
Le Valo de Vincent. Oui, le vin sobre de Valo, pardon. Ça y est, on commence à s'emmêler les pinceaux. Biodynamie, bio et biodynamie. Et alors lui, simplement souscrit à un autre label qui est le label Biodivin, mais la logique est la même.
C'est sensiblement le même cahier des charges, hein. C'est la même philosophie, c'est le respect du terroir, c'est le minimum d'intrants, enfin c'est un respect absolu du terroir pour eux. Oui, je ne sais pas comment dire ça mieux.
La petite histoire, quand même, parce qu'elle est rigolote, si on peut dire, mais le domaine est créé par des Pieds Noirs en 67, je crois, qui rentrent d'Algérie, d'Oran, où ils élevaient du vin. Ils achètent une parcelle, ils élèvent du vin. Le fait est qu'ils n'ont jamais mis de produits chimiques dessus. Ils faisaient du bio sans le savoir, à la façon de M. Jourdain. Ils faisaient du bio sans le savoir, de la biodynamie peut-être pas, mais en tout cas, ils n'ont pas abîmé leur terre avec des produits chimiques. Et du coup, quelques décennies plus tard, reprend le domaine. Quelqu'un qui dit, bah, c'est déjà du bio finalement, parce qu'on n'a pas pollué cette terre, c'est déjà du bio depuis toujours, et c'est maintenant, moi je vais en plus rajouter la dimension biodynamie pour essayer de dynamiser un petit peu cette production. Bon là, le vin s'est un peu ouvert, c'est vrai qu'au nez il était un peu difficile, un peu compliqué au début, en bouche par contre il a quand même quelque chose de vraiment intéressant.
Oui, il est assez... moi, je dirais qu'il est plutôt... c'est un vin assez... svelte. Il est assez léger, il est assez élégant. Il n'est pas corpulent comme les autres...
C'est vrai.
Les autres vins type Châteauneuf, etc. Donc, on est plutôt, à mon avis, sur un travail sur la finesse et sur l'élégance que sur le côté un peu charnu, etc. Donc, c'est un vrai parti pris. De travailler sur, je pense, sur l'élégance du vin.
Peut-être au déprimant d'une certaine longueur en bouche où il y a une puissance, c'est vrai qu'on avait une puissance dans les précédents vins qu'on avait goûtés dans les précédentes émissions. Là, moi je suis d'accord avec cette idée de finesse, de légèreté, d'élégance. C'est pas un défaut en fait du vin, c'est juste qu'il a moins de corpulence justement, il est moins pesant, il est plus léger, il est très agréable à boire.
On voit la robe déjà à la base qui était quand même plus claire effectivement que ce qu'on avait jusqu'à présent. On a un vin qui est en fait, je pense que là-dessus Jean-Frédéric était dans cette optique de dire la Syrah 100%, c'est un peu l'apanage du Rhône septentrional. Voyons voir ce que j'arrive à en faire ici, dans le Gard.
On retrouve cette idée de relever des défis pour finalement
je pense que
produire une originalité.
C'est tout l'intérêt du métier de vigneron, c'est en permanence de créer des choses. Le vigneron qui n'a pas au fond de son chai une barrique d'un assemblage...
Bizarre,
qui teste, c'est triste, quoi. Moi, c'est ce que je trouve passionnant quand je vais visiter des domaines, c'est quand ils me sortent de la cuve leurs petits trucs qu'ils n'ont pas encore vraiment testés, qui sont sur leur espèce de tube éprouvette, là, et de goûter les choses. Alors après, ça plaît moins, c'est assez difficile quand ça sort directement de la cuve de se faire une idée de ce que ça peut donner au final, mais c'est ça qui fait vibrer. C'est pas de faire tous les ans la même chose, pas se poser de questions.
On a toujours fait comme ça.
Voilà, ça c'est peut-être un peu le réflexe de l'INAO. C'est pour ça qu'ils sont de temps en temps, ils se prennent des coups de boutoir de certains vignerons.
L'Institut national.
Alors, à l'origine, l'Institut national, les appellations d'origine, je crois. Ouais. Maintenant, ils ont pris un.
C'est un peu la grande autorité du vin qui décide. Toi, tu es cru, toi, tu n'es pas encore.
Oui, tout à fait.
Tu reviendras l'année prochaine.
Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Enfin, l'acronyme n'est plus relié au nom de l'organisme, mais ça s'appelle toujours l'INAO. Et, sans vouloir être critique, parce que c'est quand même ce qui a structuré toute notre terroir et ce qui a fait tout le prestige aussi du vin français. Donc il faut être reconnaissant de ça. Il y a des fois des espèces d'archaïsme, de positions immuables qui sont un peu consternantes. On l'a vu récemment avec le débat entre l'INAO et Alexandre Bain sur l'appellation Pouilly Fumé, où le pauvre vigneron qui fait des vins un petit peu originaux et que tout le monde considère comme étant extraordinaire se trouve rayé de l'appellation parce que il correspond pas à certains critères. Finalement il a gagné son procès, il a été réintégré et ça montre que il faut s'adapter à l'évolution de ses envies de vigneron de faire des choses différentes rester sur place, c'est mourir.
Quitte à dire des bêtises, je reste tendance à dire qu'on est sur une Syrah bourguignonne. Ce qui est marrant, c'est que sur le côté un peu léger, etc., je la trouve même presque plus féminine que les Syrahs du Rhône-Nord, quoi, malgré son côté un petit peu sudiste. Perception personnelle.
Non mais c'est intéressant parce que si on se dit 100% Syrah, comparons-le à des monocépages de Syrah, donc les Saint-Joseph. Alors on n'a pas de Saint-Joseph ce soir pour comparer, mais c'est un vin qui se compare ou comme tu le laisses entendre, Patrice, qui a encore sa typicité.
Oui, je trouve un petit peu plus féminin entre guillemets qu'une Syrah typée Côte-Rôtie ou Saint-Joseph. Donc je la trouve assez aérienne, assez légère, différente quoi.
C'est un vin agréable à boire.
Pour une Syrah du Sud, elle est presque plus nordique que les Syrahs du Nord, dans son expression.
Je pense que le vigneron serait intéressé d'en discuter avec toi.
J'espère qu'il ne va pas m'engueuler. Hein.
Non, c'est un mec charmant.
Très bien.
On l'appellera à l'occasion. C'est intéressant parce que au fond, on ne sait pas si c'est vraiment son but, mais le but, si c'est d'avoir une identité, d'avoir quelque chose de différent, j'ai l'impression que le contrat est rempli. C'est une Syrah, donc ça se reconnaît parce que c'est une Syrah, 100% Syrah, monocépage. Et pourtant, c'est pas un Saint-Joseph, hein. C'est quelque chose de différent. Peut-être plus léger, peut-être plus. Que tu bois en de plus nombreuses occasions.
Non, alors pas à l'apéro déjà.
Non, arrêtons avec cette histoire de l'apéro. Moi, je ne bois que des blancs en apéro. Mais c'est un vin léger, c'est vrai. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un vin dont tu te dis, oh là là, il va falloir mettre du gibier en face, il va falloir que j'aille chasser, que j'achète un fusil et que j'attrape des bestioles. Non, tu peux le boire avec un peu comme, je comprends ce que tu veux dire avec cette histoire de Bourgogne, tu peux le boire plus facilement. Il est plus agile, peut-être. Et plus, j'ai pas envie de dire passe-partout parce que ça a un petit côté négatif, passe-partout, mais
oui, parce que je le définirais pas comme ça non plus, mais
non, mais qui permet regard, plein d'accord.
Au regard de ce qu'on a pu effectivement déguster dans les précédentes émissions, on fait une transition vers une région un peu plus septentrionale. Voilà,
c'est l'avenir.
C'est notre cheminement. On est tout, sans être monté vraiment au nord.
Il y a une volonté de finesse, il y a une volonté d'équilibre. C'est intéressant.
Il y a un équilibre. Au-delà de la volonté, il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui est bien structuré dans ce qu'on boit là.
Oui.
Indéniablement.
Oui, oui. Et puis là.
On est sur 13,5 degrés d'alcool. L'alcool n'est pas spécialement
Pour la région, c'est pas choquant. Non.
Mais oui, et puis en bouche, c'est plutôt faible. En bouche, ça nous agresse pas. C'est extrêmement plaisant. C'est plutôt soyeux. Il a mis un peu de temps à s'ouvrir, c'est vrai. Donc, si on peut donner ce conseil-là, vous l'ouvrez.
L'idée, c'est de carafer, oui, probablement.
Il vous fait peur au nez. Bah, peut-être laissez-lui du temps. Peut-être carafez-le pour augmenter cette interaction entre le vin et l'oxygène. En tout cas, je suis bien content qu'on ait trouvé un vin du côté de Saint-Laurent-des-Arbres, du côté des appellations dont on parle un petit peu moins en Côte-du-Rhône. Il y a aussi l'Audin, il y a aussi Chusclan, il y a Saint-Gervais, il y a les Costières de Nîmes, un peu plus au sud, dont on parlera peut-être une autre fois. Forcément, toute une région en 4 vins, c'est compliqué, peut-être qu'il faudra y revenir. Ben, pourquoi pas, hein, écoutez, on est là, hein, on sera ravis de goûter d'autres vins. En tout cas, voilà, il y a peut-être de l'avenir de ce côté-là. Autant on peut considérer qu'à Caran, à Châteauneuf-du-Pape, on a fait le boulot globalement, comme voilà. Nous le disait Dominique Buffet lors de la première émission. Mais il n'y a plus de mauvais vins. Il y a des gens qui cherchent leur identité. Il y a de la typicité qu'on affine entre Vaqueras et Gigondas. C'est à côté, mais c'est pas pareil. Et bien peut-être que de cette partie-là, qui bénéficie du même soleil, du même vent, à peu près de la même terre, bien on va voir émerger des vignerons qui vont faire exister leur vin et qu'on va voir de plus en plus souvent. C'était un excellent vin pour conclure avec ce petit Lirac du domaine des Maravillas, notre premier cycle consacré au vin de la Vallée du Rhône méridionale. Bien sûr, je le disais, on prétend pas résumer toute la région à seulement 4 vins et on pourrait probablement faire toute la saison entre Avignon et Montélimar. Mais que voulez-vous, c'est le défi que nous nous sommes fixés à la Terre à Boire, celui de nous promener un peu partout et de trouver dans chaque région quelques vins connus ou moins connus, si possible moins connus, on aime bien vous faire découvrir des choses qui vous donneront peut-être envie de les découvrir. Nous changerons de vignoble dès la semaine prochaine et remonterons un peu plus au nord du côté du Beaujolais. Et oui, vous êtes nombreux à avoir deviné les indices extrêmement ténus et en même temps un peu faciles à retrouver quand même que j'avais donné à la fin de l'épisode 3, l'indice numéro 1. Pourquoi novembre? Bah parce que le Beaujolais est nouveau, bien sûr, qui débarque comme chaque année au mois de novembre, le premier jeudi, je ne sais plus exactement. L'indice numéro 2, bah, c'est un vin qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. C'est vrai, le Beaujolais nouveau, c'est un phénomène mondial. Et ben pourtant, moi, je trouve que ça fait beaucoup de mal au Beaujolais. En fait, longtemps, j'ai eu cette idée que le Beaujolais, c'était ce liquide-là qu'on nous sert dans les bistrots, qui est quand même assez infect, il faut bien le dire.
Au goût de banane.
Le plus souvent, au goût de banane, d'une année sur l'autre. Ah, cette année, il a goût de banane, il a goût de cassis. C'est souvent pas bon. Il faut le dire, c'est pas bon, ça se produit en quantité astronomique, alors que c'est pas ça le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est une région dans laquelle on fait des vins d'une grande élégance, d'un grand raffinement, très sympa, très agréable. Des vins de copains, comme tu pourrais le dire, Laurent, des vins très élégants, vraiment, d'une grande finesse. Moi, j'adore cette appellation, je l'ai découverte alors que j'avais beaucoup d'a priori, comme beaucoup de gens, et c'est une excellente région vinicole française. Rendez-vous donc au prochain épisode de La Terre à Boire pour découvrir les vins du Beaujolais. Merci Patrice.
Merci, bonsoir.
Bonne soirée, merci Laurent.
Merci.
Rendez-vous au bar Wine Therapy à Paris, dans le 9e rue de Montholon, où nous allons goûter peut-être un de ces maravillas. Je ne sais pas, c'est dans la carte.
C'est prévu,
ce sera dans la carte. Donc vous pourrez aller déguster. Je n'oublie pas de remercier nos auditeurs qui sont, me dit-on, de plus en plus nombreux. N'oubliez pas d'aller cocher une petite étoile sur une certaine plateforme de podcast américaine assez célèbre. Ça prend quelques secondes et ça nous fait très, 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 très plaisir. Continuez à proposer des vins, des régions dont nous pourrions explorer les domaines, rencontrer les vignerons, parler avec des spécialistes. Tout ça, la Terre à Boire est faite pour ça. Et la Terre à Boire est également sur Twitter à l'adresse @laterreaboire. On vous embrasse bien fort. Bye, bye.